Alors, merci de me donner l'occasion de présenter dans cette plénière du colloque pour les 20 ans du réseau l'approche que nous développons au sein de la ZATA, donc dans la zone atelier Antarctique et Terres australes, une approche à l'interface des sciences de la nature et des sciences humaines et sociales dans une optique de rapprochement avec les gestionnaires et avec les décideurs pour renforcer la dimension de gouvernance socio-écosystémique en vue d'une gestion adaptative de ce socio-écosystème. Donc ici, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une démarche hautement collective. Il y a des choses qui ont démarré et qui vont se poursuivre dans les mois et dans les années qui viennent. Et toute cette optique vise, comme ce qui a été dit dans d'autres interventions du colloque des zones ateliers, à travailler sur la notion de trajectoire des socio-écosystèmes, trajectoire de viabilité, notamment au prisme du concept de gouvernance et de gestion adaptative. Alors, donc dans les 15 minutes qui me sont imparties, je voudrais insister sur le fait que, avec le groupe qu'on a monté au niveau de la ZATA, l'idée, c'est vraiment de réussir à mettre en place. Je suis désolée, j'arrive pas à passer mon PowerPoint, c'est un peu l'horreur. Vous le voyez là ou pas? Ouais, non, ça ne marche pas du tout en fait. Hein. Bon, je vais essayer comme ça, hein, seul au monde, voilà, face à mon écran. Donc, cette réflexion, elle s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus générale sur la notion de transformation vers la soutenabilité dans le contexte dit de l'anthropocène, qui est évidemment hautement critique, mais qui peut aussi constituer le tremplin pertinent pour renforcer l'innovation sociale, notamment en termes de gouvernance. Donc, j'ai listé ici sur la droite un certain nombre de notions sur lesquelles on travaille, notamment les interactions et encore les interdépendances en termes de soutenabilité et de résilience, pour travailler sur cette notion de trajectoire afin de produire des scénarios qui peuvent aider comme outil d'aide à la décision, notamment en termes d'anticipation ou de ce que l'anthropologue Marc Abeles nomme la politique de la survie, l'ère en fait de politique de la survie dans laquelle on serait rentré et pour laquelle on a besoin de renforcer toute la dimension listée à gauche de science-based pathways for sustainability, donc vraiment la notion de ce besoin d'avoir recours à la science pour tracer des trajectoires de soutenabilité. Donc, vous voyez dans la référence que j'ai mise à la fin de cette diapositive que l'anthropocène elle-même pourrait devenir le contexte de ce changement. Et c'est ce qui nous intéresse à travers le dispositif des zones ateliers, dont on sait qu'elles peuvent fournir le cadre idéal pour aller vers cette transformation et non plus uniquement une transition écologique, mais une véritable transformation socio-écologique. Alors, donc dans ce cadre-là, vous reconnaissez évidemment ici le schéma conceptuel du réseau des zones ateliers sur lequel on est nombreux à avoir travaillé ces dernières années. Et de là, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler la notion de gouvernance des socio-écosystèmes en interrogeant la catégorie de socio-écosystèmes elle-même pour essayer de passer d'une catégorie analytique, donc une catégorie purement conceptuelle produite en sciences et en l'occurrence dans le champ des sciences de l'environnement, à une véritable catégorie d'intervention publique dont on pourrait faire un levier pour aller plus fort, plus loin et plus vite dans cette transformation vers la soutenabilité. Donc, vous voyez ici le point d'interrogation que j'ai représenté à l'interface de trois sphères sociales, socialement construites sur lesquelles on travaille en sciences sociales du politique, qui sont évidemment la sphère du politique, de la décision en rouge. Vous avez également la sphère de l'économie et du marché avec des notions de compétitivité, de libéralisme qui interfèrent évidemment très largement avec la sphère politique. Et puis à droite est représentée la sphère qu'on pourrait qualifier de la connaissance où j'intègre les connaissances scientifiques dites légitimes et les connaissances profanes, les savoirs profanes des communautés, communautés décisionnaires, communautés de gestionnaires et évidemment communautés des scientifiques qui interviennent largement ou pas dans la prise de décision. Donc, c'est vraiment dans la ZATA, à l'interface de ces trois sphères, qu'on a décidé d'articuler une démarche collective en allant, donc vous retrouvez à gauche ici, toujours les mêmes sphères à l'interface desquelles nous travaillons ensemble pour explorer les conditions de possibilité ou d'impossibilité de mise en œuvre d'une gestion durable des socio-écosystèmes à travers la notion de gouvernance des socio-écosystèmes. Donc de là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place tout d'abord donc un diagnostic de la trajectoire du socio-écosystème, donc de manière historique et dans sa contemporanéité, avec des pistes de projection future, notamment en termes de choix décisionnels, l'impact des choix décisionnels qui vont être pris en termes de gestion environnementale, pour actionner les leviers de la transformation vers la soutenabilité. Donc là, j'ai clairement représenté ce qu'on est en train d'étudier au niveau de la ZATA et qu'on peut reproduire sur d'autres ateliers. C'est d'abord donc l'analyse du processus de décision et d'action collective, la notion d'indicateur qui est revenue dans plusieurs présentations, notamment dans la plénière de Chloé, me semble-t-il, sur les indicateurs réglementaires, ce qui va être pris en compte à la fois au niveau réglementaire, mais aussi à la fois en termes de science pour décrire la complexité, le fonctionnement des écosystèmes. Et puis, évidemment, ce à quoi j'attache beaucoup d'importance, c'est qui est la notion des valeurs, représentation et intérêt, qui vont intervenir dans le processus de décision. Donc ici, on a étudié, on a mis en évidence, en fait, plusieurs facteurs limitants dans la transformation vers la soutenabilité, qui sont identifiés comme des gaps dans la littérature. Donc, un gap de connaissances, un gap d'implémentation en termes de réforme, de transformation de l'action publique elle-même, et puis évidemment un gap en termes de relations de pouvoir. Donc ça, c'est des choses qu'on mobilise très concrètement en couplant différents types de réseaux qui sont ici représentés avec à droite de la diapo, donc le réseau sociologique, le réseau de la prise de décision, dans lesquels on va intégrer d'autres types de réseaux et d'autres types de plans, d'autres types d'échelons qui peuvent aller des cycles biogéochimiques jusqu'à la prise en compte du réseau trophique lui-même, voire à la prise en compte de chaque compartiment ou espèce de ce réseau trophique dans la prise de décision, avec ici en haut représenté à droite l'idée que pour ce faire, on est obligé de coupler les différents niveaux. Et donc, à partir de là, on a décidé d'aller plus loin avec l'équipe ZATA et d'autres collègues pour aller vers une modélisation des systèmes complexes, donc une modélisation dynamique et intégrée qui devrait nous permettre d'identifier, de reconnaître à la fois les interactions, mais encore plus loin, les interdépendances qui peuvent conduire vers cette soutenabilité ou cette résilience pour faire de la solidarité écologique, donc le principe de solidarité écologique qui est travaillé en droit, un véritable levier d'action publique pour aller vers la transformation. Alors, ce sont ces modèles qui m'intéressent et sur lesquels, évidemment, je ne travaille pas toute seule. Notamment, Benoît Autoniel nous a rejoints et il contribue très largement à concevoir et surtout à réaliser techniquement ce modèle en système dynamique intégré, un modèle qui est pensé de manière utile comme outil d'aide à la décision et à partir duquel on souhaite dépasser en fait la seule flèche des services écosystémiques qui était très largement à l'origine de la production de ce type d'approche, hein, qui vraiment passe par le couplage des systèmes services écosystémiques, pour aller jusqu'à une modélisation du principe et du processus de la prise de décision comme ayant un impact sur la trajectoire du socio-écosystème elle-même, et pour réussir à opérationnaliser les différents types de couplage en intégrant la dimension dynamique. Alors, si on en vient précisément au cas, au terrain d'étude sur lequel on applique cette approche, la ZATA, a priori, n'est pas le socio-écosystème idéal qui permettrait de le faire, puisqu'on a peu d'humains permanents qui vivent sur la zone. On a une très forte régulation avec un système de gouvernance qui n'en a pas réellement un, mais qui est plutôt un système de gouvernement d'État, très vertical. On a beaucoup de régulation, beaucoup de science, donc beaucoup de gestion et donc, a priori, une très bonne intégration entre les échelons de décision, notamment du niveau national, du niveau local déporté jusqu'aux échelles internationales avec des grandes instances de décision qui vont intervenir dans la régulation sur la zone. Néanmoins, la ZATA présente l'avantage de nous permettre justement de travailler sur un petit modèle d'études et d'actions qui est très soumis au changement global, donc un très bon outil pour rentrer dans les problématiques de l'anthropocène, où on a toutes les catégories socio-économiques, scientifiques, décideurs, administrateurs, voire même militaires qui vont être présents sur la zone pour vraiment déchiffrer les mécanismes quasi anthropologiques dans les relations de nature pour travailler sur la notion du gouvernement de la nature par les hommes. Donc, ça explique un peu l'orientation et le changement de gouvernance dans l'organigramme de la ZATA, où on voit ces derniers temps apparaître un axe clairement dédié à la gestion, à la conservation adaptative et à la notion des sociaux écosystèmes. Alors, plus précisément, on a identifié deux portes d'entrée dans ce socio-écosystème pour travailler sur les enjeux cruciaux liés à la gouvernance socio-écologique. Donc, en posant la question, est-ce qu'on a vraiment affaire à une gouvernance en termes de socio-écosystème et comment on pourrait actionner les leviers pour aller vers cette gouvernance censée favoriser une gestion adaptative et donc augmenter la soutenabilité ou la résilience du socio-écosystème. Donc, le premier axe sur lequel nous travaillons concerne les pêcheries avec une notion de conflit et de nécessaire coexistence entre les différentes espèces, donc les humains et les non-humains, en travaillant sur une compréhension des mécanismes socio-écologiques, donc à la fois du conflit, mais aussi l'identification des solutions en matière de gestion, de mitigation des conflits. Donc ça, c'est essentiellement basé sur un travail de modélisation du socio-écosystème autour de la question de pêcherie de l'égine, de la problématique des déprédations et du nécessaire maintien d'une activité d'exploitation du milieu tout en garantissant la conservation des espèces en présence. Et puis, l'autre thématique sur laquelle on commence à travailler et sur laquelle, pour l'instant, on a moins travaillé que celle des pêcheries, ce serait en fait la question des interactions entre les maladies et l'écologie des populations pour garantir une meilleure conservation des oiseaux marins. Donc ici, on n'est plus sur Kerguelen, mais sur Amsterdam, avec notamment la question de la dératisation des zoonoses et de la nécessaire conservation des albatros, qui invite évidemment à travailler main dans la main avec les gestionnaires. Alors pour l'heure, on a réalisé un premier modèle, une structure simplifiée du modèle intégré dynamique et multi-échelle de la ZATA autour des pêcheries, où ici, ce que j'aimerais porter à votre attention, c'est en fait la nécessité dans ce modèle d'intégrer différents sous-modèles qui nécessite d'avoir accès à un certain nombre de données, d'observations, de séries d'observations à long terme. Donc là, vraiment, le dispositif LTSR est tout à fait justifié par rapport à un terrain lambda, puisqu'on va pouvoir intégrer, par exemple, des modèles de réseaux trophiques, des modèles de pêche qui vont être liés, par exemple, aux activités de pêche, aux techniques de pêche ou encore aux revenus, et évidemment aux captures, mais aussi des modèles de déprédation qui permettent de travailler sur les interdépendances, notamment autour de la compétition de la ressource et des interactions directes qui vont avoir un effet sur les différentes espèces. On va évidemment travailler également dans ce type de modélisation sur la notion de service écosystémique en travaillant, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les indicateurs et les différents types de critères. Mais surtout, on va également, au-delà d'un déclaratif sur la gouvernance, modéliser le système de gestion à travers une modélisation du système de décision, notamment en travaillant sur le poids relatif des différents groupes d'acteurs dans le réseau de décision et sur le différent rôle ou poids des variables d'intérêt et notamment des intérêts qui vont être mobilisés, soit issus de la symbolique, de l'écologie, de l'économie ou évidemment de la science et de la gestion. Donc, Benoît Ottoniel a réalisé cette première représentation non calculée, on va dire, du socio-écosystème des terres australes françaises. Ici, ce que vous voyez, c'est une représentation de notre compréhension actuelle du fonctionnement complexe de ce socio-écosystème, avec évidemment des interactions qui sont représentées par les flèches entre différentes catégories d'acteurs humains et non humains. Et l'idée, grâce à la modélisation des socio-écosystèmes par MINDS, c'est de dépasser cette représentation schématique pour aller vers une modélisation basée sur des calculs à partir desquels on va pouvoir émettre des scénarios ou des trajectoires. Donc, les différents modèles vont être basés à l'intérieur de cette modélisation sur différents types de données que j'ai listées tout à l'heure, donc je ne vais pas les reprendre. On a évidemment, par exemple, un modèle écosystémique qui va être basé sur différents types de modèles existants, notamment en termes de réseaux trophiques sur la zone. Mais on peut aussi aller chercher des sous-modèles dans les grands modèles comme le GIEC, notamment à travers la régionalisation. Donc, pour ce qui est du modèle de gestion et de décision, puisque c'est plus ma partie que le réseau trophique, évidemment, je voudrais ici expliquer comment on a travaillé très précisément pour aller vers cette modélisation. Donc, tout d'abord, on a réalisé une sociogenèse, donc une reconstitution de l'histoire à travers non seulement les dates, les grandes prises de décision, les textes réglementaires, mais également les groupes d'acteurs qui interviennent les uns auprès des autres ou les uns contre les autres dans l'évolution, donc dans la trajectoire du socio-écosystème. Donc, on a vu dans une des présentations, d'ailleurs, une frise un peu similaire d'évolution, de trajectoire du socio-écosystème. Donc, je trouvais ça assez intéressant parce qu'on peut, à partir de là, travailler sur des gradients, travailler sur des éléments de comparaison. Donc, cette sociogenèse, elle nous a permis de réaliser une analyse sociologique de réseau, donc en identifiant les groupes en présence. Et là, on travaille de manière historique également en identifiant des grandes dates correspondant à des grandes mesures de gestion et à des grands changements de paradigme ou non en fonction des groupes d'acteurs et des référentiels qu'ils vont mobiliser pour justifier la prise de décision. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, donc on va poursuivre évidemment et qu'on va maintenant chiffrer en intégrant des données, donc en réalisant une espèce de modélisation basée sur ce que Benoît appelle des équations et que donc évidemment je ne contribue pas à concevoir l'équation, mais les sciences sociales permettent adossées aux mathématiques, adossées aux sciences de l'environnement, de concevoir le modèle général pour représenter les différentes parties de ce socio-écosystème. Donc c'est ce qu'on s'est amusé à faire récemment avec Amandine Gamble et Thierry Boulinier sur un modèle simplifié potentiel au niveau d'Amsterdam sur la question des échelles des espèces introduites qui vont avoir des effets sur l'écosystème et de voir toute la répercussion qu'il va y avoir sur les autres, sur l'environnement et évidemment sur les mesures de suivi en termes de gestion. Alors les grands résultats qui ressortent de ces approches, c'est que le système de gouvernance n'en est pas forcément un puisque l'État reste majoritairement décisionnaire sur ces zones très stratégiques, à la fois en termes de sciences et à la fois en termes de géopolitique, et que ce qu'on appelle la gestion adaptative nécessite une transformation du système de gouvernance elle-même pour rendre le système de gouvernance plus robuste afin d'aller vers plus de soutenabilité et vers plus de résilience du socio-écosystème. Donc, c'est toute la matrice des interactions humains-non-humains et surtout la manière dont les humains s'orchestrent et orchestrent le mode de régulation entre eux pour aller vers cette gestion adaptative qui doit être repensée. Alors là, donc ce que je voudrais vraiment mettre en exergue, c'est que le principe de solidarité écologique que j'ai évoqué au début nous semble, à la suite de ces travaux, et on travaille beaucoup sur cette question avec la juriste de l'environnement Agnès Michelot, être l'un des leviers possibles pour actionner la gouvernance des socio-écosystèmes. Donc, pour conclure, je dirais que l'approche qu'on met en place sur l'ASATA a vocation à la fois à renforcer la dimension socio-écologique et l'interface avec le système décisionnaire et de gestion, mais aussi l'ensemble des acteurs socio-économiques pour renforcer une gouvernance des socio-écosystèmes qui, pour l'heure, n'est pas réellement mise en œuvre puisqu'on en a, on a encore affaire à une gouvernance essentiellement écosystémique et pas tout à fait socio-écosystémique, mais il semblerait que le dispositif Zone Atelier puisse contribuer à le renforcer. Je vous remercie pour votre attention.